Mes chers amis, nous voici le 24 décembre, la veille de Noël, et je vous propose quand même une sainte. Costanza Cirioli naquit le 28 janvier 1816 à San Cino di Cremona en Italie. 16e enfant de Francisco Cirioli et de la comtesse Francesca Corniani, riche propriétaire terrien. Elle fut éduquée très sévèrement, mais également et heureusement très religieusement. Physiquement très fragile, en raison de sa naissance difficile, elle connut très tôt la souffrance physique. Elle fut également mise en relation avec la souffrance morale à cause de la misère vécue par les gens de la campagne de San Cino, dont sa mère lui faisait prendre conscience. La formation culturelle et morale de Costanza fut confiée aux sœurs visitandines des Alzano Lombardo, où sa sœur Cécile avait déjà été envoyée, et où se trouvait sœur Giovanna, la sœur de sa mère. Dès l'âge de 11 ans, Costanza entra au collège et y resta pendant presque 5 ans, se montrant intelligente et très docile. Elle fréquentait aussi les écoles pour les filles de familles nobles. Elle aurait désiré devenir religieuse, mais obéissant à ses parents en qui elle voyait la volonté de Dieu, elle accepta à 19 ans le riche mariage qu'on lui proposa avec Gaetano Busecci, héritier des comtes Tassis de Comonte, di Seriate à Bergame. Ce monsieur de 58 ans était présenté par son entourage comme un veuf ombrageux, acariâtre, jaloux et lunatique. Ce fut un mariage difficile, mais Costanza se comporta toujours comme une épouse docile et attentionnée. De plus, il ne faut pas oublier que nous sommes au milieu du 19e siècle, période pendant laquelle Seriate, située dans la périphérie de Bergame, où Costanza était venue habiter après son mariage, ainsi que d'autres provinces de la Lombardie et de la Vénétie, se trouvaient sous la domination de l'Empire autrichien, tandis que de violents courants libéraux et nationalistes s'opposaient, héritiers de la Révolution française. De l'union entre Gaetano et Costanza naquirent 3 enfants. 2 d'entre eux moururent en bas âge. Puis Gaetano tomba malade, gagné par une lente paralysie. Comme il se montrait extrêmement jaloux du seul fils qui leur restait, Costanza dut mettre son petit Charles en pension pour le protéger. Puisant ses forces dans l'abandon à Dieu et dans la prière, Costanza assumait courageusement sa vie et soignait son mari avec dévouement. Au bout d'une 20aine d'années, Gaetano mourut. Devenue veuve, Costanza pensait garder son aîné Charles, mais lui aussi mourut à son tour, à l'âge de 16 ans. Cependant, avant de mourir, Charles dit à sa mère « N'aie pas peur, maman, le bon Dieu te donnera d'autres enfants. » Comme elle avait une grande dévotion à la Vierge Marie, Costanza comprit qu'il s'agissait peut-être d'une maternité spirituelle. Effectivement, après un premier temps de désarroi, soutenue par sa méditation du mystère de Notre-Dame des Sept Douleurs, elle recueillit des orphelines et utilisa son château et ses biens pour venir en aide aux pauvres. Elle s'intéressait particulièrement à la classe paysanne la plus marginalisée à l'époque, socialement et religieusement. Voici plus de détails. Devenue veuve, Costanza était la seule héritière d'un important patrimoine. Pourtant, son veuvage et surtout la perte de son dernier fils eurent d'abord sur elle un effet dramatique. Elle tomba dans une grande dépression. Elle eut tout de même la force de s'accrocher à sa foi grâce à la solide direction spirituelle des 2 évêques de Bergame, Mgr Pietro Luigi Speranza et Mgr Alessandro Valcezzi, et bientôt le curé du village vint lui demander de prendre en charge 2 orphelines. Costanza, qui avait 38 ans et habitait un vaste château, accepta. Rapidement, elle dut recueillir d'autres orphelines, puis s'occuper de leur éducation. Ne suffisant plus à la tâche, elle fit appel à des jeunes filles bénévoles, et elle vendit beaucoup de ses biens pour subvenir aux besoins des enfants. Ainsi se constitua peu à peu l'Institut des Sœurs de la Sainte Famille de Bergame. Peu après, en 1857, l'évêque de Bergame, Mgr Speranza, donna l'habit religieux à la fondatrice qui prit le nom de sœur Paul Elisabeth et à ses premières compagnes. Le nouvel institut se destinait à l'éducation religieuse et professionnelle des orphelines de la campagne. Sœur Paul Elisabeth désirait surtout qu'on entoure les enfants d'une affection constante et qu'on leur fasse connaître et aimer Dieu plutôt que de le redouter. Elle souhaitait aussi qu'on donne aux orphelines la possibilité réelle du choix de leur avenir en les préparant aux tâches d'une vie laïque normale. En effet, aimant la campagne et les travaux des champs, elle désirait que ses protégés, issus de la campagne, puissent devenir de bonnes épouses de paysans. Si par ailleurs elles devaient gagner leur vie en se plaçant comme servantes, sœur Paul Elisabeth veillait personnellement à leur choisir des familles chrétiennes. Après avoir traversé de nombreuses difficultés, le 4 novembre 1863, Costanza accepta d'aider un prêtre et un agriculteur pour fonder une maison et un institut pour les orphelins ruraux. Son château étant devenu trop petit, elle ouvrit un orphelinat pour les garçons. Tout en continuant à travailler à l'ouverture de plusieurs instituts, des sœurs et des religieuses de la Sainte Famille, instituts consacrés à l'aide matérielle, morale et religieuse de la classe paysanne, Costanza réalisait enfin ce à quoi elle aspirait profondément, mettre à la disposition de jeunes garçons orphelins sa propriété des Villa Campania di Sancino, qu'elle confia aux soins de frère Giovanni Caponi, originaire de Leffe. Contemplant constamment la Sainte Famille et vivant en quelque sorte avec elle, Costanza était convaincue que les enfants avaient tous besoin d'une famille saine et unie, généreuse et stable pour grandir et devenir des hommes solides, forts et courageux. Mais cela ne pouvait se faire que lorsque les liens de parenté étaient renforcés par le partage des valeurs de la foi et de la culture chrétienne. C'est ainsi que Costanza, sœur Paul Elisabeth et ses collaboratrices, aidaient les petites filles abandonnées avec une grande bonté et beaucoup d'humilité. Ayant choisi comme modèle la Sainte Famille de Nazareth, Costanza voulait que ces communautés religieuses soient semblables à des familles chrétiennes accueillantes, unies dans l'amour et animées par une fraternité sereine et laborieuse, et surtout une foi forte, simple et confiante. Cette œuvre devait se réaliser, pour les religieuses, dans une pauvreté vécue et enseignée, pauvreté qui n'est pas essentiellement une pauvreté de moyens, mais surtout la renonciation à gérer ses sentiments de manière à ce que ce soit Dieu qui offre ce qui lui plaît. Le 25 décembre 1865, se sentant lasse, Costanza gagna sa chambre plus tôt que d'habitude, et le matin, on la trouva endormie en Dieu. Elle avait 49 ans. Elle fut béatifiée à Rome le 19 mars 1950 par le pape Pie XII et canonisée le 16 mai 2004 par Jean-Paul II. Elle est fêtée le 24 décembre. Pour être complet, nous devons ajouter que la congrégation de la Sainte Famille recueillit des centaines d'orphelines. Ces jeunes filles non seulement étaient soigneusement éduquées, mais on leur apprenait aussi à travailler la terre comme tous les paysans. Sur le plan spirituel, Costanza et ses sœurs étaient surtout orientées vers la contemplation. Costanza, sœur Paul Elisabeth, avoua un jour qu'en pensant aux douleurs de Sainte Marie et en imaginant le moment où celle-ci vit la mort de son divin enfant, elle avait senti un tel pressentiment et un tel serrement de cœur qu'elle avait dû s'asseoir à moitié évanouie. Plus tard, elle ajouta « Je ne sais pas comment j'ai pu survivre, gracile et exténuée comme je l'étais. » Notons que Costanza se distingua particulièrement par sa maternité spirituelle, ses œuvres de charité, sa piété, sa confiance absolue dans la providence et son amour pour la pauvreté, l'humilité, la simplicité et son admirable soumission à ses supérieurs, les évêques et ses supérieurs spirituels. C'est ainsi qu'elle sut mettre en valeur la dignité du rôle de la femme dans la famille et dans les besoins de la société, surmontant les nombreuses difficultés et les incompréhensions qu'elle rencontra, elle réussit à mettre en œuvre une institution constituée d'hommes et de femmes, imitant le modèle évangélique du mystère de Nazareth, constitué par Marie et Joseph, accueillant l'enfant Jésus pour l'offrir au monde.